Radio Okapi à Bandundu sur 99 FM.
La sécurisation du parc de la Salonga a fait l'objet d'une rencontre tripartite entre les gouverneurs de l'Équateur, du Kasaï occidental et du Bandundu. Objectif visé, mettre fin à l'insécurité dans les zones limitrophes et enrayer la menace d'extinction qui pèse sur certaines espèces animales de ces parcs, pourtant protégées par des lois et règlements nationaux et internationaux. Nous aurons pour débattre de cette question deux invités, à savoir Benoît Kisuki Maté, ADP de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Roger Pembe Koko, ministre provincial de l'Environnement, Conservation de la Nature, Tourisme et Affaires foncières. Mais d'abord, faisons le point avec notre confrère Henri Issepoutela. Henri, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, auditeurs de la Radio Capi.
Alors Henri, pouvez-vous nous faire un bref aperçu de ces parcs de la Salonga?
Oui, le parc de la Salonga s'étale à l'intersection de trois provinces, à savoir l'Équateur, le Kasaï occidental et le Bandundu. Il y a même lieu de citer une quatrième, le Kasaï oriental. Créé en 1970, avec une superficie de 36 000 km², il est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. Ces parcs immenses protègent des populations d'éléphants de forêt, de singes rouges, de paons congolais et les serpents nés bonobos. Il est de nature forestière et regorge plusieurs essences telles que wingé, tola, ébène, chama, potipo, sapeli, sipo et bien d'autres. Comme un domaine aquatique, le parc de la Salonga renferme des espèces riches et variées telles que les caïmans et la tortue.
Alors comment se présente la situation actuelle du parc?
Oui, le braconnage met en péril tous ces patrimoines dont la valeur est inestimable pour notre pays. Et avec lui, plusieurs conflits de compétences entre l'administration publique nationale et les entités administratives décentralisées quant à la gestion des aires protégées. L'installation de plusieurs campements en violation de lois et règlements et l'intense trafic des populations riveraines de trois provinces, Équateur, Kasaï occidental et Bandundu, pour joindre plusieurs destinations. Mais la grave menace demeure la présence des ex-militaires et une intense circulation d'armes de guerre dans le parc de la Salonga.
Le problème, c'est que depuis un certain temps, il y a tout part du parc de Salonga, qui est effectivement qui est situé parmi les trois provinces de Bandundu, Équateur et Kasaï occidental, et peut-être qu'aujourd'hui, même pays, il y a un petit coin au Kasaï oriental. C'est ainsi que dans ce parc-là, les braconniers, les gens qui abattent les éléphants, ont essayé un peu de déborder les 50 km. Les éléphants se sont éparpillés. C'est ainsi que, là où ils étaient, à partir de certaines menaces, il se fait que ces braconniers sont allés au-delà, jusqu'au niveau de mon territoire. Parce que là, il n'y a pas de garde-parc approprié. C'est ainsi qu'en cherchant les éléphants, en abattant les éléphants, ils dérapent l'objectif. Où les débats des éléphants, maintenant, ils commencent à tracasser les gens, à tuer même les gens. Et là, l'état des droits qui n'existe pas, c'est fait que dans mon coin là-bas, les chefs qui est là, l'autorité locale qui est là, n'a plus de pouvoir. Donc, ces braconniers violent même, ces braconniers volent, on met armé. Et moi, je me dis, dans cette situation-là, où le parc est Salonga, n'est pas sécurisé, où les gardes des parcs ne sont pas motivés, ne sont pas ordonnancés, franchement, si on n'y prend pas garde, dans l'avenir, il peut y avoir des conséquences incalculables.
Oui, des conséquences incalculables. Henri, quelles sont, selon vous, les causes du braconnage dans le parc de la Salonga? Parce que vous avez amené une enquête là-dessus.
Oui, il faudrait vous dire déjà que les braconniers qui opèrent dans le parc de la Salonga vise le commerce des espèces vivantes, c'est le cas de Bonobo, et le commerce de la viande et de l'ivoire. Disons que ces commerces, à la base du braconnage, s'amplifient avec l'implication de la population à la recherche de gains faciles. La précarité des conditions de vie de la population, pour ne pas parler de la pauvreté de population qui avoisine le parc, est l'un des éléments aggravants qui peut être retenu comme cause de ce phénomène de braconnage. Donc, je veux dire simplement que c'est que l'essentiel, c'est que c'est les commerces des spécimens. Il y a de ceux qui veulent vendre de certaines bêtes vivantes, telles que le bonobo, qui intéresse la plupart de revendeurs clandestins dans ces secteurs. Et il y a aussi, il y a le fait que bon, il y a la viande, surtout la viande d'éléphant, et la viande de buffle et d'autres espèces aussi protégées. Et le problème, c'est que aux environs du parc, la population n'a pas de grands moyens. C'est que il arrive que bon, les braconniers leur demandent de les aider à transporter leurs marchandises, c'est souvent la viande. Et bon, c'est ce qui fait que aujourd'hui, ce qui pouvait se faire avec 10 personnes, 10 braconniers, va se faire avec une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles les 40 villageois qui viennent prêter main forte aux braconniers. Et ça intensifie les commerces et ça aggrave la situation.
Oui, ben alors j'imagine que disons ce phénomène braconnage ne peut que disons entraîner beaucoup de conséquences. Est-ce que vous pouvez nous en faire une idée?
Oui, les conséquences sont multiples. Les conséquences sont multiples. Il faudrait vous dire déjà que les espèces qui sont dans le parc, la plupart sont des espèces protégées. Mais bon, protégées puisqu'on craint l'extinction. Mais avec les braconnages, ils pèsent une menace d'extinction de ces espèces-là qui sont protégées. Et il faudrait signaler que, bon, il y a la population à côté de parcs, des populations. Mais il faudrait dire ici que, bon, la cohabitation entre les braconniers et les populations qui abordent les parcs ne sont pas toujours très pacifiques. Puisque, bon, il arrive que les populations trouvent leur compte quand on leur demande, par exemple, de transporter la viande d'éléphant. Et vous savez que quand on abat un éléphant, sûrement que le braconnier ne va pas tout prendre. Il y a une bonne partie qui reste. Et le villageois trouve leur compte dans cette affaire. Ils viennent facilement. Mais il peut arriver aussi que les braconniers ne trouvent pas leur compte, donc les villageois plutôt, ne trouvent pas leur compte dans ce que leur demande le braconnier de faire. Et là, ça pose beaucoup de problèmes. Et vous avez même subi, hein, donc ça pose beaucoup de problèmes. Des fois, ils recrutent ce villageois de force. Et là, ça c'est à coup de massacre, et ils ont des armes, il faudrait savoir. Et vous avez même suivi l'honorable Benjamin Poutou, qui les députés des Kiri, qui a dit, c'est que quand ils viennent dans le village pour se ravitailler, hein, se ravitailler, c'est souvent des forces qu'ils prennent, quoi. Prenons, quand ils viennent chercher les chukons, ils ont les armes, ils viennent pas les acheter, quoi. Ils viennent prendre, et au moment où ils prennent, souvent, ce sont des tueries qui se passent, et l'agent de l'ordre qui voudrait s'y opposer, il y a des cas de tueries qui arrivent. Donc, c'est pour vous dire que ça aboutit à plusieurs problèmes, et même, je pense que le gros de problème, c'est un problème que je dirais assez économique, puisque, bon, quand il y a tout ça, ça fait que, aujourd'hui, les investisseurs ne trouvent pas
leur compte. Alors, Henri.
Dans les secteurs. Oui.
Oui, Henri, est-ce vrai que, parce que vous parlez de tuerie, est-ce vrai que les agents de l'ordre sont parfois tués par les braconniers?
Oui, il y a eu des cas, il y en a plusieurs, mais prenons, il y a le cas de deux policiers qui ont été tués dans le secteur de Bianga, dans la province de l'Équateur, et dans le territoire de Mokoto, et dans les districts de la Chopa. Ça, c'est récent, quoi. C'est à la fin de l'année passée. Donc, il y a des cas comme ça qui se sont refusés.
Donc, les exemples sont légion, hein.
Oui, il faudrait aussi dire que il y a plusieurs agents de l'Institut congolais de la conservation de la nature qui ont perdu leur vie, hein, dans les articles de ce travail. Donc,
voilà. Donc,
comment on protège ces animaux-là, et c'est un travail terrible, hein, parce que c'est un problème d'armes de guerre. Et je vous ai dit que ceux qui sont là, ce sont des ex-militaires, ce sont des ex-rébelles.
Qui aiment la terreur. Voilà, Henri, voilà, il s'est pouté là, on ne peut pas trop nous éterniser à cela. Nous allons peut-être avoir beaucoup plus de précisions avec nos deux invités, Benoît Kisuki Maté et Roger Pembe Koko. Avec vous, on s'arrête là, merci et à la prochaine.
Merci.
Le week-end, c'est un petit congé de la semaine bien mérité. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour apprendre à faire des choses en compagnie d'Okapi Weekend Matin. Un coup de marteau par-ci, un coup de pinceau par-là, Okapi Weekend Matin bricolage. Un coup de rasoir par-ci, un coup de peigne par-là, Okapi Weekend Matin pour écouter Grand Témoin. Un coup de hanche par-ci, un coup de danse par-là, Okapi Weekend Matin pour gigoter en musique. Okapi Weekend Matin, tous les samedis et dimanches, de 5h à 9h, heure de Kinshasa, 6h à 10h, heure de l'Est. Okapi Weekend Matin, pour terminer la semaine en beauté sur Radio Okapi.
Roger Pembe Koko, ministre provincial de l'Environnement, Conservation de la Nature, Tourisme et Affaires foncières, vous êtes en ligne et bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, monsieur Roger Pembe, vous avez suivi le point que nous venait de nous faire d'encore notre confrère Henri Sepoutela autour de la sécurisation des zones limitrophes du parc de la Salonga. Et parallèlement à cela, il y a eu une rencontre tripartite entre les gouverneurs de l'Équateur, du Kasaï occidental et du Bandundu. On peut dire que c'est le Bandundu qui est l'initiateur de cette rencontre.
Oui, bien sûr, parce que le cas est assez flagrant du côté de Kiri et de Oshwe, qui sont une partie intégrante de notre province de Bandundu, raison pour laquelle nous avons estimé, pour sécuriser ce qui est notre devoir, notre population de ce coin-là, il a été impérieux à ce que nous puissions avoir une consultation avec toutes les provinces limitrophes ou mitoyennes du parc de la Salonga.
Oui, mais la problématique de la sécurisation des zones limitrophes du parc de la Salonga, ça c'est connu de tous, mais ça exige pour qu'on puisse avoir la sécurité, beaucoup de moyens. Est-ce que vous êtes mis d'accord avec d'autres exécutifs provinciaux afin que vous arrivez à mener vos actions à bon port?
Absolument, absolument. C'était d'ailleurs la raison fondamentale de cette rencontre. Nous avons sorti des recommandations communes et applicables à toutes les trois provinces. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que notre gouvernement central a demandé vraiment à s'y impliquer et à faire une attention particulière pour remettre la paix dans toute cette zone qui est quand même insécurisée pour le moment.
Oui, ben j'imagine que avant cette rencontre, vous avez eu à évaluer quand même le besoin exprimé pour arracher quand même cette sécurisation du parc de la Salonga.
Bon, c'est un problème qui date pas d'aujourd'hui, hein. C'est un problème qui date de très longtemps. Quand on fait un pas en arrière, on voit que le braconnage a toujours existé, mais pas avec l'ampleur que nous connaissons aujourd'hui, parce que à l'époque, c'était au profit de populations riveraines du parc, mais aujourd'hui, il y a une implication militaire et il y a une implication des armes de guerre. Donc, le grand danger vient de là. Ça, c'est notre plus grande inquiétude, parce que nous mettrons en péril ce patrimoine quand même très important pour nos provinces ainsi que pour notre pays.
Est-ce que la présence des militaires ne peut pas constituer une entrave à votre démarche ou à l'approche que vous allez utiliser pour réellement arracher cette sécurisation?
Bon, l'approche que nous avons, c'est l'implication de toutes les forces de la République, c'est-à-dire le gouvernement central et notamment le président de la République s'est impliqué personnellement. Donc, je pense qu'il y a des mesures à prendre qui vont au-delà du poids que nous, les provinces, nous représentons. Je crois que le problème de l'armée, c'est la souveraineté nationale. Et ça concerne en premier lieu notre gouvernement central.
Alors, parce qu'au quotidien, on enregistre, parfois, c'est pas au quotidien, mais souvent, on enregistre des cas de pertes en vies humaines du côté des agents qui sont affectés, disons, au poste de travail au parc de la Salonga. Est-ce que la question sur la prise en charge des victimes peut être posée?
Absolument, absolument, parce que vous voyez des gens qui mettent leur vie en péril pour sauver les animaux, je pense qu'il faut faire porter une grande attention à ce problème-là. Mais vous connaissez les réalités de notre pays, on peut les indemniser, mais jusqu'à quel point, c'est là où on se pose aussi de problèmes. Moi je pense que chacun doit avoir un œil très penché sur ce problème de du parc national de la Salonga, parce que il y a des enjeux. Ils ont apporté une grande contribution.
Mais vous êtes sans ignorer que l'ICCN éprouve d'énormes difficultés.
Bon, ça nous les savons depuis toujours, parce que gérer un parc, c'est pas comme on gère une administration. Il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de personnel qualifié, et je crois qu'aujourd'hui l'ICCN présente beaucoup de faiblesses que nous devons tous ensemble voir comment remettre l'ICCN comme il a été à l'époque, comment il gérait les parcs, comment il maintenait la nature dans sa position de départ. C'est ça qui est important et je pense que dans les recommandations que nous avons faites, il y a l'appui et renforcement des capacités pour l'ICCN, surtout au niveau du parc national de la Salonga.
Oui, mais vous, Roger Pembe-Coco, en tant que ministre provincial de l'Environnement, est-ce que vous ne pouvez pas déjà vous y mettre? Vous avez quand même des moyens de fonctionnement, non, au ministère provincial?
Madame, je souhaiterais beaucoup vous inviter ici à Bandundu pour voir les moyens que nous avons. Je crois que ce qui nous anime le plus, c'est la volonté que nous avons. Et aujourd'hui, si cette tripartite est tenue dans notre province, c'est parce que nous avons une grande préoccupation. Même sans moyens, je crois que ce qui est important, c'est de faire connaître le problème devant tout le monde sur le plan national, international. Et je pense que les moyens vont venir. Nous allons faire face à ce grand fléau dans notre parc.
Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous fonctionnez sans moyens?
Absolument, madame. Je peux vous dire que quand nous recevons ces gens d'invités, nous avons reçu plus de 100 personnes. Madame, ça y a un certain poids pour notre budget de la province que nous mettons à la disposition pour que cette partie se réussisse. Et je pense que nous avons encore besoin de beaucoup de moyens, beaucoup d'appui plutôt sur le plan national et international. Et je suis content que lors de ces assises, nous avons eu la présence de WWF qui de son côté a été vraiment sensibilisé et je crois qu'ils pourront nous venir en appui pour restaurer l'autorité et puis sécuriser et sauvegarder la nature dans les parcs.
Oui, Roger Pembe, reste encore un moment en ligne, le temps pour nous de prendre notre deuxième invité, Benoît Kisuki Baté, ADT de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature. Monsieur Benoît, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, vous venez de suivre Roger Pembe, Coco, ministre provincial de l'Environnement, qui a parlé, entre autres, des recommandations qui sont sorties de cette rencontre tripartite entre les gouverneurs de l'Équateur, du Kassai occidental et du Bandundu. Disons, des recommandations qui ont mis également l'accent sur l'appui et renforcement des capacités de l'INSS de l'ISSN. Êtes-vous content de cette décision?
Absolument, monsieur le journaliste, vous savez que nous avons été heureux de constater que nous sommes au centre des préoccupations de tout le monde. Au départ, le problème au sein du parc national de la Salonga était en train effectivement de préoccuper notre conseil d'administration, notre comité de gestion. Et nous avons été heureux de voir comment les trois gouverneurs prennent la décision de se mettre ensemble et de mobiliser tous les services à leur disposition pour réfléchir et trouver des solutions aux problèmes qui se passent dans le parc national de la Salonga, surtout que c'est un problème qui commence même à sécuriser la population aux environs du parc national de la Salonga. Donc, nous pouvons vous dire que toutes les résolutions qui ont été prises dans cet atelier ont été vraiment favorables à nous et nous pensons que c'est un décollage pour le démarrage, un décollage pour la gestion effective de ce patrimoine, de ce type de patrimoine.
Oui, M. Benoît, à en croire certains observateurs environnementaux, on peut directement conclure que les trois quarts des aires protégées aujourd'hui en République démocratique du Congo sont dans un état de délabrement très avancé et également dans un état d'insécurité la plus totale.
Tout à fait, parce que vous savez que nous sommes en période de post-conflit. Nos aires protégées ont effectivement porté pratiquement le coup de toutes les guerres de la région des Grands Lacs. Vous savez très bien que depuis les années 86, il y a eu des guerres en République de l'Ouganda et tous les éléments militaires qui, en fait, s'étaient retirés de ces guerres-là se sont déversés dans nos parcs, ce qu'on appelle les NAL ou EDF dans le parc national de Virunga. En 1994, vous savez qu'il y a eu une guerre au Rwanda, et après cette guerre-là, il y a eu encore une fois des éléments militaires rwandais qui se sont déversés sur notre territoire, que vous appelez FDLR et Interahamwe. Vous savez aussi qu'au Burundi, il y a eu une guerre, et cette guerre a eu aussi un impact très, très négatif sur notre territoire. Vous savez vous-même qu'en RCA, comme au Soudan, il y a eu aussi des guerres, et toutes ces guerres ont eu effectivement à déverser des munitions, des armes et même des hommes qui se retiraient, qui battaient les traites de toutes ces guerres sur notre territoire. Même en Angola voisin, il y a eu aussi une guerre là-bas des Savimbi qui n'a pas eu aussi quelques traces négatives dans nos aires protégées. Vous savez aussi un autre aspect qu'il faut considérer, c'est que la plupart de nos aires protégées se trouvent dans nos frontières de l'État, du pays. Alors,
Monsieur Benoît,
on peut dire que finalement les aires protégées constituent le point de retranchement
de certains. Oui. Ben alors,
mais... engagé pour pouvoir mettre dehors tous ces civiques.
Tous ces civiques qui tiennent la terre. Alors, M. Benoît, disons, si ce n'est pas un secret, combien pourrait éventuellement coûter la réhabilitation, même partielle, des aires protégées qui sont encore sous le contrôle de l'ICCN?
Il est difficile de vous donner un montant exact. Ben, je peux vous dire que, comme le ministre l'a dit, il faut des gros moyens, parce qu'il y a le problème du personnel, il y a le problème des équipements, il y a le problème des constructions, des réhabilitations. Donc, je ne peux pas vous dire à ce moment ce qu'il faut exactement comme moyen dans la mesure où...
Oui, mais ne fût-ce que proposer un projet, parce que le ministre...
Je préparais maintenant une mission d'évaluation dans tous les autres parcs, comme la Salonga, et comme... Lupemba et Koudelou qui venaient d'être libérés par les forces de GDO. Donc, vous comprenez que nous sommes encore, c'est encore un peu tôt de vous dire exactement les...
Oui, mais en pensant justement de tous ces problèmes que vous rencontrez, les aires protégées qui sont insécurisées, est-ce que l'Institut congolais pour la conservation de la nature arrive encore à bien faire son travail?
Ou bien génère encore les recettes?
Les recettes, non. En fait, non, parce qu'effectivement, tous les sites, toutes les aires protégées qui généraient des recettes comme Virunga, comme Kaouzibi et Kasso, aujourd'hui investis par les civiques. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas. Et mais aussi, de l'autre côté, les visiteurs qui viennent de l'étranger ne peuvent pas venir visiter les animaux dans un parc insécurisé. Mmh. Et ça, c'est impossible. Mais néanmoins, nos agents sont sur le terrain, comme l'a dit le ministre ici. Nos agents sont en train de supporter les coups, ils meurent devant ces civiques là, mais ils continuent quand même à travailler.
Mais Benoît, qui sont qui?
Quelque chose d'accord, on doit bâtir maintenant.
Oui, mais aujourd'hui on peut croire, hein, on peut croire que l'Institut congolais pour la conservation de la nature n'a même plus sa raison d'être, parce que vous n'arrivez même plus à protéger l'environnement, la nature.
Non, madame, c'est trop dur de dire que nous n'arrivons plus. Je vous informe que, par exemple, pour la réserve de faune à Okapi, juste à 2005, nous contrôlons cette réserve à pratiquement 40%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 95% de couverture, taux de couverture. Le parc national de Kaouzi-Biega, que nous contrôlons à 10%. Aujourd'hui, nous sommes à 4% de contrôle de ce parc. La Garamba, que nous contrôlons à pratiquement 10%. Aujourd'hui, nous sommes à 70% de contrôle. Donc, madame, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien.
Donc, au fur et à mesure...
Il y a encore beaucoup à faire.
Et au fur et à mesure, vous arrivez plus ou moins à retrouver votre place. Mais comme vous l'avez dit, il y a encore beaucoup à faire. Hein.
Oui, Benoît, là, vous avez... Il y a trois provinces qui viennent de vous tendre la main. Bandundu, Kasaï Occidental, l'Équateur, pour le cas notamment de la Salonga. Donc, vous devez parler au plus pressé, c'est-à-dire proposer un projet, évaluer les besoins et faites-le parvenir à qui des droits, notamment les ministres provinciaux de l'Environnement, Conservation de la Nature, Roger Pembe qui est...
Et ça serait estimé à combien exactement?
C'est notre joie, effectivement, de constater qu'effectivement, il y a les provinces qui commencent à nous rejoindre, à commencer par tous les consortiums entre les trois provinces ici. Je peux vous dire qu'au Nord Kivu, le gouverneur des provinces fait la même chose. À la province orientale, le gouverneur Aoucha est en train de faire la même chose. Et au Katanga, le gouverneur Moïse fait la même chose. Mais ici, ce qui est beaucoup plus spécifique pour cet atelier, c'est qu'il y a trois gouverneurs qui se mettent ensemble pour essayer de trouver des solutions, d'appuyer l'ICCN dans sa lourde mission de conserver le parc national à Salonga, qui est un bien de l'humanité. Quoi que ça, c'est ce qui donne vraiment une notation spécifique ou spéciale à ces artistes de Bandundu. Nous remercions beaucoup. De notre côté, nous sommes en train effectivement de déployer des experts sur le terrain pour évaluer les besoins, notamment pour le parc national de
la Salonga.
Je voulais vous dire que nous venons effectivement d'obtenir des fonds de l'Union européenne qui passe par Ecofac 4 de 4 500 000 et effectivement qui vont devoir nous permettre de non seulement commencer certains actes de gestion, mais aussi évaluer d'autres besoins pour que nous puissions effectivement présenter un tableau à notre gouvernement, mais aussi à tous ceux-là qui veulent nous aider, notamment les gouverneurs de province.
Oui, Benoît Kisuki Maté, nous rappelons que vous êtes ADT de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Merci d'avoir été de nôtre et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Alors, nous nous retournons du côté de Roger Pembe. Vous avez suivi monsieur l'ADT de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Dans sous peu, on pourrait diligenter une commission d'experts pour évaluer les besoins. Allez-vous réserver un bon accueil à cette commission?
Bon, je pense que le problème de besoin, nous pouvons voir ça en second lieu. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'abord de sécuriser le parc, parce que vous ne savez peut-être pas, il y a un grand trafic d'armes de guerre, d'armes civiles, de munitions militaires, de munitions de chasse. Et on ne peut même pas évaluer ça. Et ce qui est important pour nous, c'est d'abord de maîtriser ce circuit de fourniture d'armes de guerre, parce que c'est l'arme de guerre qui constitue, je pense, le plus grand danger pour le parc. Et l'évaluation ne peut se faire que si il y a eu rétablissement de l'autorité de l'État, si on arrive à localiser tous ces campements des braconniers et des ex-militaires qui occupent le parc. Je pense que ça sera la première préoccupation que nous aurons. Et l'évaluation ne peut se faire que dans un climat serein.
Vous aurez du pain sur la planche, Roger Pembe Koko. Nous rappelons que vous êtes ministre provincial de l'Environnement, Conservation de la Nature, Tourisme et Affaires Foncières. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
En République démocratique.